Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Évidemment, je suis pas seul, je suis en tête à tête avec Rémi. Salut Rémi, comment ça va?
Yo tout le monde. Bah écoute, les chômages et au rendez-vous, on rate pas un seul match par soir.
Non, c'est beau.
En vrai, c'est faux, il y a des matchs à 4h du mat où je ne tiens pas. Parce que je reste humain en fait.
Parce que finalement l'humain a besoin de dormir. Donc...
Ouais, en fait, ouais. Mais ça va, je suis sur un rythme et tout, j'arrive à mater tous les matchs, c'est trop bien.
Parfait, nickel. Tu seras un bon partenaire pour cette émission et pour les émissions à venir comme ça, c'est parfait.
Tout à fait. En plus, c'est le bonheur, les playoffs, c'est le feu cette année.
Ouais, cette année il y a trop de divertissement, mais on va en parler tout de suite. Cette semaine, dans cette émission, on va s'occuper des playoffs. Et notamment des premiers tours qui sont presque tous terminés dans la conférence Ouest. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe, c'est parti. On commence tout de suite par les équipes qui sont qualifiées, plus ou moins dans l'ordre. On va commencer par les Wolves qui ont finalement sweepé les Suns, donc 4-0. Bradley Beal, c'est la première fois qu'il se fait sweeper. Très drôle d'ailleurs l'interview du match après le match 3, jamais je me suis fait sweeper dans ma carrière, ça n'arrivera jamais. Bon bah tu te fais exploser derrière au match 4.
Ouais, c'est non seulement tu te fais sweeper mais en plus t'as servi à rien dans la série.
C'est ça, c'est un échec total pour Bradley
Beal.
Surtout
hein, parce que putain, Bradley Beal c'est peut-être la plus grande déception côté Phoenix. Hein.
Ah bah oui, parce que au final ce Big 3 en fait c'était même pas un Big 2 du coup, parce que finalement, Booker a fait une demi-série, il s'est réveillé sur le dernier match, mais je pense que c'était un peu trop tard.
Il a été ouais, assez en galère. C'était trop tard. Kevin Durant a fait une bonne série quand même dans l'ensemble.
Oui, bah.
Mais enfin, celui Kevin Durant dans l'âme, même si j'ai pas trop compris certaines lignes qu'il a sorties, il a dit comme quoi il avait pas les shoots qu'il voulait prendre, enfin, comme quoi il était pas toujours dans la meilleure position pour attaquer, alors que, bah merde, quoi, c'est Kevin Durant. À quel moment est-ce que Kevin Durant il dit pas au coach ouais, frérot, tu veux pas qu'on fasse un système pour que je prenne un shoot ici? Moi, je pense que le coach, il fait « bah ouais, ok ».
Bah ouais.
Parce c'est que ça. T'es Kevin Durant, et je sais que tu le rends, donc oui. À quel moment est-ce qu'un mec comme Kevin Durant n'est pas à l'aise dans ses positions? Ça, je comprends pas. Bah... Bradley Beal, tu payes un mec 50 ouais. millions pour que ce soit un role player.
Et oui, et puis en delà du transfert de Bradley Beal, tu payes 170 millions de luxury tax pour te faire sweeper au premier tour.
Ah ouais.
Donc au-delà de l'échec individuel de certains joueurs, c'est un échec collectif, c'est un échec de franchise.
C'est un énorme échec collectif parce que du coup le management ils doivent bien tirer la gueule, l'équipe doit bien tirer la gueule et en plus de ça, je pense qu'il doit y avoir une grosse remise en question parce que là tu fais all-in en alignant toutes tes stars pour aller loin, tu te fais sweeper contre une équipe qui... Je veux pas manquer de respect à Minnesota, mais ça fait longtemps qu'on les a pas vus aller loin en playoff.
Bah, depuis 2004, ça a pas passé un tour.
Tout simplement. Je pense qu'ils sont les premiers surpris. Il y a un truc qui va pas. Là.
Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et surtout que sur le papier, t'as quand même des joueurs et des All-Stars, peut-être certains qui seront Hall of Famer. Et t'arrives pas à faire quelque chose face à une jeune équipe. Alors certes, qui a montré des qualités qu'on a déjà parlé dans l'émission précédente sur la conférence Ouest. Mais en fait, t'as trouvé aucune solution, aucun ajustement en 4 matchs, quoi. C'est ça qui est terrible.
Ah ouais, bah là, les ajustements, aucun. Hein. Le coaching passe par là, vraiment aucun ajustement. À aucun moment, ils se sont dit, ok, là, ils défendent bien sur cet axe-là. On va essayer de trouver des solutions autrement. Pas aucun moment. Aucun moment, puis en plus de ça, tu vois que l'équipe se connaît pas encore bien, la chimie est pas prête, les oui, systèmes, ils sont pas toujours appelés comme il faut, les timings...
C'est beaucoup d'isolation.
C'est alors énormément d'iso, moi j'ai vu que
ça. T'as KD et Booker, donc t'as peut-être deux des cinq meilleurs joueurs de la Ligue en iso, peut-être.
T'as la meilleure défense de la Ligue.
Sauf que, voilà, en fait, collectivement, ça switch tellement bien, et toutes les rotations, l'aide défensive est tellement impressionnante, et il ouais. y a aucun retard, en fait. Donc t'es en difficulté, surtout qu'en plus Minnesota, bah en fait ça sécurise le rebond quasi. Enfin, tu t'espères pas gagner cette bataille de rebond face aux Wolves. Non. Donc t'as pas de rebond off, donc pas de seconde chance. Ça commence à être quelque chose de très compliqué en fait pour toutes les équipes qui vont affronter les Wolves, parce que pour le coup, c'est hyper impressionnant de leur part. Et puis la série d'Anthony Edwards, parce qu'on parle de, des Suns qui ont été médiocres, mais en fait, faut redonner le crédit aux Wolves. Et
non,
en fait, incroyable série de Anthony Edwards au scoring, au leader.
Des Wolves de manière générale. Hein.
Dans le leadership et tout. On a du Karl Anthony Towns qui a été très important. Rudy Gobert a fait une très belle série avec
Rudy
des stats.
Rudy Gobert, c'est un poisson dans l'eau.
Ah ouais. Ouais, il y a, sauf sur le dernier match, tu vois, il a été moins performant, mais en soi.
Ouais, mais il n'était pas gêné, je veux dire, il n'avait pas une grosse défense sur lui. Alors après, Rudy Gobert, c'est pas un énorme scoreur, mais tu vois, il faisait son taf, il prenait sa défense, il prenait ses rebonds. Quand on lui donnait le ballon sous le panier, hop, il mettait son dunk. Il avait aucun problème de je suis pas à l'aise ou autre.
Ouais, c'est ça, exactement. C'était plutôt fluide dans le jeu et tout, donc trop bien. Je suis d'accord avec ça. Moi, il y a un joueur que je retiens côté Wolves qui m'a fait kiffer, c'est Jalen McDaniels.
Ouais,
qui était tellement important. Défensivement, de l'autre côté du terrain, sur la série, je peux trouver la stat tout de suite en termes de points.
De toute façon, c'est pas compliqué. Je pense que le meilleur arrière sur la série, c'est Anthony Edwards. Le deuxième meilleur arrière sur la série, c'est Jalen McDaniels. Désolé, Devin Booker.
Bah, c'est certain, en fait. Jalen McDaniels,
les bras débiles, pareil. Là, j'en parle même pas.
Il tourne à 15 points de moyenne à 50% au tir.
Ouais, voilà.
Donc, c'est parfait. C'est parfait. L'apport de Nick Alexander Walker en sortie de banc, pareil. Nice Reed, on a déjà parlé, on a déjà fait les éloges.
Ryan Anderson, très,
très important.
Qui défend, il joue.
Donc, non, ça a été...
c'est très, très fort. C'est très collectif. Ça défend bien. Ça se bat. Tu vois que les mecs, ils ont envie. On a un vrai leader. Anthony Edwards, vraiment, là, on est en train d'assister à la montée en puissance d'un futur Hall of Famer, hein, clairement, je pense.
Ah bah, s'il continue comme ça risque.
Cette année, mais en tout cas, il va tout droit vers des récompenses. Hein.
Oui, que ce soit individuel ou collectif, ça peut vite se transformer en succès, je suis d'accord.
Ah bah ouais, il a tout ce qu'il faut, en fait. Il a le talent, la mentalité, l'énergie, le leadership, il a tout. Il a tout.
Trop impressionnant, je suis d'accord. Donc voilà un peu pour la série des Wolves donc, qui affronteront en demi-finale les tenants du titre, les Nuggets. Les Nuggets qui se sont imposés donc 4-1, petit gentleman sweep face aux Lakers. Les Angelinos qui ont su tirer leur épingle du jeu dans le match 4 avec un très bon LeBron et un très bon Anthony Davis. Mais trop court en fait sur le match 5. Et on avait du mal à voir... Ouais, et surtout bah, Jamal Murray qui met un petit game winner de série aussi.
Jamal Murray qui met deux game winners sur la série. Hein.
Bah oui,
qui met un game winner de série, mais oui, qui met deux game winners dans la série.
Ouais, donc en fait, les fins de match côté. Oui, bah pour le coup, sur cette opposition, je suis d'accord. Et aussi, les Nuggets dans le Money Time, c'est trop impressionnant en fait, comment ils paniquent jamais en fait. Ils paniquent jamais.
C'est impressionnant, ouais. Les Nuggets Money Time, c'est trop trop fort. C'est très clutch, c'est très serein, non seulement dans leur alchimie, dans leur système, dans qui fait quoi. Enfin, les mecs, ils sont calés, c'est millimétré, quoi, vraiment. Los Angeles, beaucoup, il y a beaucoup de talent, mais par contre, le dernier quart, même les deuxièmes mi-temps, c'est très mal géré. Et du coup, Denver a fait payer les Angelinos là-dessus.
Ouais, c'est ça, à l'usure.
Ouais. Ouais, ouais.
Lebron et Heidi qui jouent 43 minutes de moyenne, je crois, sur la série, un truc du genre. C'est trop. C'est beaucoup trop. Et en fait, c'est surtout qu'autour, c'est pas assez responsabilisé, ou alors ça ne fait pas le taf. On a vu la belle déclaration de Darvin Ham, qui, je pense, a déjà son siège et son bureau qui a changé de serrure, je pense.
Vous avez beaucoup critiqué sur les rotations, mais quand vous avez un des titulaires qui chie dessus des fois d'affilée, qu'est-ce que vous faites?
Sur
bon,
10
matchs dans le Russell, je crois que c'est pour toi. Ça, hein, voilà.
C'est sur 10 matchs consécutifs.
Ouais, en vrai, dans le Russell, qui a fait un bon match dans la série. Ouais. Allez, deux. Il a fait un très bon match et c'est tout, en fait.
Après, c'est
il fait une série très compliquée. En fait, on a vraiment LeBron James et Anthony Davis qui surnagent un peu statistiquement. Qui n'ont pas fait de mauvais matchs, hein, clairement.
Non, c'est clair.
Et il y a Austin Reeves qui fait une bonne série aussi, mais c'est tout. C'est tout, côté Los Angeles. Malgré ça, moi, j'ai vu une stat quand même que j'ai trouvé assez ouf. C'est que du coup, sur les 5 matchs, ça fait un peu plus de 170 minutes au total joué.
Ouais.
Denver n'a mené au score que 40 minutes sur les 170 au total.
Ouais, mais sauf que c'est
celles qu'il faut avoir en fin de match à chaque fois.
C'est ça, exactement. Ouais.
Mais du coup, Los Angeles était devant au score pendant plus de 120 minutes. je trouve ça assez impressionnant, quoi. Parce que c'est vraiment Los Angeles qui est devant pendant trois quarts temps.
Pendant 60-70% du temps.
Qui fait non, bah on revient. Voilà.
C'est énorme.
C'est fou, en vrai. La stat est folle. Mais comme l'a dit Nikola Jokic, hein, ce qu'il a appris aux courses de chevaux, c'est que l'important, c'est pas comment tu commences la course, mais comment tu la finis. Voilà.
Magnifique. Magnifique. Ouais, cette série, bah, en soi, on aurait pu, je pense que beaucoup de gens auraient pas vu les Lakers gagnants, mais peut-être plus une série peut-être plus disputée.
Et ouais, en fait, c'était quand même très disputé. Il y a 4-1, mais en vrai, c'est très disputé. Hein.
Ouais, mais je parle dans les résultats. On pensait que les Lakers avaient potentiellement les ressources d'aller chercher plus de matchs que ça, quand même.
Ouais, bien sûr. Ouais, il y en a beaucoup qui s'attendaient à un Game 7 ou au moins un 4-2, quoi. Pas ce qu'ils perdent aussi facilement. Hein. Mais en fait, ils ont quand même pas démérité parce qu'il y a quand même deux game winners. Enfin, ils perdent 4-1, donc on est sur un gentleman sweep, mais ils sont pas ridicules sur la série.
Oui, bien sûr. Mais c'est décevant quand t'es les Lakers de sortir au premier tour, peu importe l'adversaire.
C'est décevant quand tu sors au premier tour, quand t'as un LeBron James qui, tu sais, qu'aura un an de plus. Bon, ça c'est comme pour tout le monde, mais LeBron s'approche d'un âge commence à être élevé pour les athlètes et du coup, tu sais pas ce que ça va donner l'année prochaine.
C'est surtout que l'année prochaine, il n'est pas sûr d'être là parce qu'il sera unrestricted.
Il est free agent cet été.
Free agent. Ouais. Donc, ça se trouve, il ira signer ailleurs. Donc, en fait, là, côté Lakers et côté pour tous les fans des Lakers, ça reste assez flou pour établir une vue d'ensemble sur la saison prochaine, quoi.
Ouais,
donc voilà, c'est compliqué. Petite preview du coup de la demi-finale entre les Wolves et les Nuggets. On essaye de ne pas y passer trop longtemps, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Je te laisse la main là-dessus.
Hein, comme preview. Hein.
Ouais, c'est dur. Oh là là.
C'est très très compliqué parce que d'un côté on a un Denver avec un talent de fou furieux, comme je disais, les mecs savent ce qu'ils ont à faire, tous c'est millimétré et tout, et c'est très très fort. Et de l'autre côté on a la meilleure défense de la ligue avec la montée en puissance d'un vrai leader, etc. C'est très fort aussi, mais à mon sens ça manque un peu d'expérience quand même. Il y a quelques petites lacunes de ce côté là. Je pense que par contre ça va être une série très disputée. Je mets l'avantage à Denver, selon moi, mais je ne serais pas surpris que ça aille en 7 matchs. Je vais dire 4-2, mais s'il y a un 4-3, je ne suis pas... Voilà, je dis 4-2 par défaut, mais le 4-3 me donne envie, quoi.
Ah bah, de toute façon, une série avec ces deux équipes-là, on veut 7 matchs. Hein. On veut 7 matchs. Moi,
je suis le premier à vouloir 7.
Tu sais quoi ? Moi, j'ai envie de faire une dinguerie. C'est pas du tout mon
bracket. Tu mets les Wolves qui passent ?
Ah, j'ai envie que les Wolves y passent.
Ah, ce serait une... Waouh.
J'ai envie que les Wolves passent et je pense que c'est peut-être l'équipe la mieux armée pour empêcher Denver d'aller en finale.
Ça, par contre, c'est probable que l'équipe de Wolves ait énormément de qualité pour casser les couilles à Denver.
Je pense que c'est le meilleur contender pour sortir les Nuggets. Juste dans cette opposition-là. Je ne dis pas que les Wolves peuvent aller gagner les finales, tu vois. Mais pour sortir Denver, je pense que c'est l'équipe la mieux armée. Parce qu'on a vu sur cette. Sur ce premier tour, à quel point ils étaient réglés défensivement. Alors on sait qu'ils ont les génies de Jokic, de Murray, Michael Porter Jr. qui a été très important face aux Lakers. Ils ont des joueurs qui peuvent et qui ont l'intelligence de créer des décalages et tout. Et je pense que les Wolves sont les mieux armés pour ça. Parce qu'en fait, sur quasiment tous les postes et sur la rotation à 8 joueurs, 9 joueurs s'ils écartent un peu, ils sont tous réglés et tous sont impliqués défensivement avant de penser à l'attaque, presque.
Ouais.
Et en fait ça m'étonnerait pas que si les matchs dépassent pas les 95-100 points, en fait, ce soit des matchs que les Wolves remportent. Des matchs trop défensifs.
Dans la saison régulière, il y a eu 4 matchs Denver contre Minnesota, 2 victoires, 2 défaites. Donc égalité balle au centre.
Ah, ça nous laisse présager une super série.
De quoi ? Ah ouais, non, ça donne... Ouais, complètement.
Et bah, tu vois, moi, je vois... Alors, s'il y a un Game 7, c'est les Nuggets qui passent.
S'il y a 4-2, c'est les Wolves.
Moi, je mise un 4-2 Wolves, tu vois. C'est presque sévère, hein, mais j'y crois, en vrai. J'y crois.
Et genre, ce serait magnifique pour les Wolves. Ils ont les armes pour faire très mal à Denver, mais je pense que Denver a aussi beaucoup d'armes pour faire mal à Minnesota.
Ah bah, c'est pas les Suns, c'est sûr.
Ils sont pas champions en titre, pour rien, en fait, clairement. Moi je les mets favoris, je les fais passer, mais ouais, je te rejoins dans l'idée que les Wolves peuvent surprendre.
Moi je mets les Nuggets favoris, hein, mais si je donne un pronostic, je mets les Wolves.
C'est pour l'outsider.
C'est ça.
J'entends.
Ça, c'est ça. Puis ça fera plaisir un peu à Nico aussi, parce que voir Rudy en finale de conf, ça lui,
ça
lui rappellera les bonnes heures du Jazz.
Je pense que ça fera plaisir à énormément de gens de voir les Wolves battre Denver et d'aller en finale de conf. Hein.
Il y a moyen, il y a moyen.
Parce que ce serait incroyable.
Ah bah oui, ce serait fou. On passe de l'autre côté du tableau, mon cher Rémi.
Ouais.
Le Thunder, qui s'est qualifié face aux Pels 4-0.
Ouais.
Je pense qu'on va pas s'attarder vraiment sur cette série. Les Pels qui étaient amputés de Zion et le Thunder qui a été juste au-dessus en fait sur quasiment toutes les rencontres.
C'est la meilleure équipe qui a gagné la série en fait, tout simplement.
Ouais,
en
ça.
Plus, comme tu dis, les Pelicans c'était amputé de Zion, ça se fait toujours mal. Mais ouais, c'est pas tellement une surprise. Je pense qu'on aurait aimé quand même que, enfin, on aurait toujours aimé qu'une équipe évite de se faire sweeper et aille au moins en chercher un.
Oui, parce que nous, on est avant toute chose, on aime le basket et ça fait mal de prendre 4-0, sachant que les Pels ont fait globalement une très bonne saison.
Sachant
ça aurait été mérité d'en prendre.
Ouais, c'est ça. Ils font une bonne saison, les mecs se battent. Enfin, tu vois qu'ils ont envie et qu'ils le méritent en fait.
C'est ça, exactement.
Donc un peu dommage, ça fait toujours mal, mais d'un autre côté, ça montre aussi la puissance du Thunder. Et ça, c'est très fort parce que en fait, ils sont fait peur sur le premier match. Ils le gagnent au buzzer, je crois. Enfin, il y a un game winner de Shai
sur
le tout premier match. Et après, par contre, ils gèrent le reste de la série. La dernière fois, Miguel avait dit comme quoi ils avaient besoin d'un match référence. Je sais pas s'ils ont vraiment fait match référence.
Dès le match 2. Si, dès le match 2, c'était match référence.
C'était le match référence, ouais.
Ouais,
je sais pas dire si vraiment c'était le match référence, mais en tout cas, ils ont pris la claque en pleine gueule premier match. Et après, ils sont alignés, ils ont fait le travail comme il fallait par la suite. Et ça, c'est bien, bien géré de la part du Thunder, je trouve.
Oui, et surtout, t'as pas envoyé 40 minutes de tes titulaires. T'as été globalement assez cohérent sur tes rotations. T'as pas fatigué ton équipe, à mon sens.
Ouais.
Même si c'est des jeunes et ils sont capables d'avaler ces minutes-là. Pour moi, je trouve que ça a été plutôt bien géré à ce niveau. Tu vois, Jalen Williams et Shai sont à 35 minutes pile de moyenne sur la série.
Ouais.
Ça reste, pour des playoffs, ça reste vraiment, une bonne. Pour un premier tour, tu te fatigues pas, quoi. Tu restes en forme. Sachant que. Alors attends, 3, 6, 9, t'as 10 joueurs qui dépassent les 10 minutes. Donc t'as vraiment donné des minutes à tout le monde.
Ouais.
Je trouve que c'est plutôt bien pour une approche sur la demi-finale qui va être un peu plus compliquée que les Pels, je pense. On enchaîne tout de suite dessus ?
On enchaîne, vas-y, je te suis.
Eh bien, Clippers, Mavs, une série qui n'est pas encore terminée, celle-ci. Deux partout dans la série pour le moment.
C'est la plus belle série.
De tous les playoffs, tu trouves ?
Ah, moi, je trouve que la série, elle est incroyable.
Elle est incroyable, mais c'est pas...
La série est trop cool parce qu'en fait, les deux ont des très très grosses armes pour embêter l'autre et ils le font vachement bien. Et j'adore la série.
Moi, j'ai une question pour toi, mon frère.
Vas-y,
toi qui es fan des Clippers. On a vu que les deux matchs où Kawhi a joué, il me semble qu'il y en a eu deux, c'est deux défaites.
Ouais. Ouais, complètement.
Est-ce que tu te prives de Kawhi pour la fin de la série ?
Je sais pas, c'est compliqué à dire parce qu'en vrai, ça reste quand même ton meilleur joueur et en fait, il fait deux matchs où il est à côté. J'ai envie de dire, il a shooté quelques, enfin, il a mal shooté en fait. Il est à 45% en shoot seulement, ce qui est pas si dégueu. Mais les trois points, ils rentrent pas. Les choix sont compliqués.
Défensivement, je le trouve un peu à la peine.
Les
aides, là où d'habitude il vient,
je suis complètement d'accord.
Il va bien aider. Là, c'est un peu plus compliqué. Il a du retard, ou alors il va pas.
Il y en a pas mal qui disent comme quoi son genou était toujours douloureux. Du coup, c'était pour ça qu'il était un peu en retrait et d'ailleurs qu'il a pas joué le game 4.
Ça s'entend.
Moi, je pense que si on retrouve Kawhi, il nous le faut à 100%. Voilà, tout simplement.
Je suis plutôt d'avis, je suis d'accord avec ça.
Parce que quand t'as ton meilleur joueur qui joue avec difficulté pour des problèmes de santé, donc qui shoot mal, qui défend mal, enfin, je dis pas qu'il défend mal, mais qui est un peu en deçà de ce qu'on attend, de ce qu'on sait qu'il est capable, et ben en fait, ça te peine quand même, mine de rien. Parce que quand il n'est pas à son top niveau, défendre sur Luka Doncic, tu vois, typiquement, on aimerait bien l'avoir à son top niveau, parce que là, c'est un mec comme, sur qui tu as besoin de défendre.
Bah oui.
Donc Kawhi, en fait, on a vu qu'on arrivait à gérer la série sans lui, parce qu'il y a quand même énormément de talent côté Clippers, et on peut la gérer sans Kawhi. Je préfère qu'il se repose et qu'il soit en pleine forme au second tour. À la rigueur, si vraiment ça va sur un Game 7 et vraiment qu'on a besoin de lui, ok. Mais... Là, il y a égalité. Si on peut tenter un cinquième match sans lui, voir ce que ça donne. Si on a de l'avance, on le laisse au repos. Si on a du retard, ouais, à la rigueur, tu vois, tu
ouais,
vois.
Si tu perds le game 5, tu le fais revenir 6 et 7.
Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir.
Je suis même pas sûr que ça rende service aux Clippers, en fait. Moi, je m'en priverais. Comme tu le dis, s'il est pas à 100%, c'est une épine dans le pied. Parce que tu comptes trop sur lui, tu lui donnes pas mal de ballons en attaque malgré tout, parce que, tu vois, il joue 30 minutes, il prend quand même 12 shoots. Ça me paraît beaucoup pour un mec qui est un peu en méforme.
Ouais.
Et en plus de ça, bah, défensivement, il est pas aussi compétent qu'il l'a été. Et sachant que c'est des secteurs où, quand en fait, tu le fais défendre sur du Luka, ça peut être des tâches qui sont complétées par d'autres joueurs de ton effectif, malgré tout.
Ouais, complètement.
Du Westbrook a fait du très bon taf sur lui sur les deux premiers matchs.
Westbrook, défensivement, c'est très très bien ce qu'il fait. Offensivement, j'ai encore beaucoup de mal.
Ah bah oui, mais bon.
Les choix qui sont pris par Westbrook, des fois, sont très questionnables. Ouais. Et ça, c'est un peu agaçant. C'est très criblant, surtout en playoff. En saison régulière, encore, j'en rigolais. Mais là, c'est vraiment agaçant.
Mm-hmm.
Et à l'inverse, on a James Harden qui, offensivement, est trop fort.
Ouais. On a vu
meilleur
sur le match 4.
Scoreur côté, ouais, match 4, impressionnant. C'est
33 points, 70% au tir.
C'est au quatrième quart-temps qu'il prend feu. Il met 3 flotteurs d'affilée. Il a enchaîné quelques gros shoots. Donc très très solide. Mais par contre, défensivement, ça me fait mal de le dire. Mais le plot, quoi. Il est ciblé en défense et ça fait extrêmement mal aux Clippers.
Le troisième quart de Kyrie au match 4. Qui réveille les Mavs. Tu regardes la moitié des points qu'il met, c'est quasiment dû à une mauvaise défense d'Harden parce qu'il switch dessus ou alors il sert de d'Harden comme un plot quoi. Impossible de défendre sur Kyrie déjà parce que Kyrie quand il est comme ça.
Déjà parce que Kyrie est très très fort, il peut mettre la sauce absolument à tout le monde. Mais ça arrange pour voir son vis-à-vis face à James Harden parce que c'est encore plus facile quoi.
Ah bah oui, c'est ça. Est-ce que j'espère que tout le monde a vu l'image de Kyrie qui attaque le cercle au milieu de trois Clippers
avec trois défenseurs sur lui
et ouais, qui fait deux feintes en l'air pour effacer les bras et en retombant, il lâche la balle, enfin, c'est tellement magnifique.
Sachant que les défenseurs, bon, il y a James Harden dans l'eau, mais il y a Paul George qui est quand même un bon défenseur
et Amir Kofi.
Le troisième, c'est Amir Kofi.
C'est Amir Kofi
qui se bat bien.
Ouais. Donc c'est vraiment cette image elle m'a marqué sur ce match 4.
Ah oui, impressionnant. Kyrie a fait un match 4 énorme. D'ailleurs, il faut en parler de ce match 4 parce que c'est bien l'image des Clippers. Il y a 39 à 16 à la fin du premier quart-temps.
Ouais,
parce que les Clippers ont pris un coup de chaud au shoot impressionnant. Paul George, dès la première mi-temps, était déjà à 26 points à la pause. Donc très très fort. Mais Dallas arrive à revenir quand même. Donc tu prends plus de 20 points d'avance. Et Dallas arrive à revenir, à repasser au score avec, je crois qu'il y avait pas loin de 8 ou 10 points d'avance pour Dallas à quelques minutes de la fin. Donc les Clippers ont bien géré la fin de match et ça s'est très bien joué. Hein. Énorme Paul George, très bon leadership, on l'attendait au tournant sur cette série. Pour moi, il coche les cases, c'est très très fort. Mais c'est pas normal que tu fasses autant peur. Quoi. Quand t'as 25 points d'avance, tu peux pas te permettre de laisser l'équipe autant revenir. Quoi. Ça, c'est pas normal.
Alors certes, c'est une avance qui a été obtenu très tôt dans le match, donc il reste du temps, ça on le sait, mais tu dois si jamais les Mavs arrivent à recoller, ils doivent pas passer devant et reprendre un plus 10 en fait.
Ouais, c'est ça. Ça en arrive fait que les Mavs arrivent à mettre les Mavs ont réussi à mettre un premier run 10-0, 10-2, je sais plus trop.
Dans le deuxième quart, ouais, je crois.
Ouais, dans le deuxième quart, déjà, ils rattrapent pas mal, mais encore, ça va, les Clippers, ils conservent quand même pas trop mal leur avance. C'est dans le troisième quart, surtout, que ça fait mal, parce qu'il y a Kyrie qui a pris un coup de chaud impressionnant. Donc ils mettent quelques runs, je l'entends, c'est normal, mais c'est pas normal que tu perdes autant l'avantage quoi.
Ah bah oui, je suis totalement d'accord avec ça. Après l'important c'est de t'en sortir.
Ils s'en sont sortis.
T'as quand même remporté le match 4, donc en soi ça reste anecdotique. Par contre sur des matchs qui vont de plus en plus compter parce qu'on arrive vers la fin de la série, tu peux pas te permettre que ça arrive à nouveau. Parce
que c'est
le coup, parce qu'en fait tu joues à Dallas. Et en fait, c'est ce match-là, tu le perds.
Oui, bah complètement, hein, bien sûr. Mais bon, au moins, ce qui est bien, c'est que Dallas... Enfin, on n'a pas beaucoup parlé de Dallas, mais il faut qu'on en parle aussi. Dallas a repris l'avantage du terrain en allant chercher du coup, le deuxième match à Los Angeles. Ouais. Los Angeles a répondu, ils vont chercher match 4 à Dallas. Donc là, on reprend l'avantage du terrain côté Clippers. Ouais. J'attends de voir la suite, mais pour moi, ça sent un peu mieux, je trouve, côté Clippers. Mais attention, parce qu'il y a quand même une belle odeur de danger à côté.
Bah, réponse cette nuit.
Ouais, réponse cette nuit. Tout à fait. Ceux qui écoutent l'épisode, ils ont déjà le résultat.
Exactement.
Moi, je pense que c'est trop important pour les... Enfin, je suis pour les Clippers, donc forcément, c'est facile pour moi de dire ça. Mais pour moi, c'est trop important pour les Clippers de gagner le match 5, de se rassurer, de montrer qu'on peut le faire, surtout devant ton public. Et là, le match 5 est trop décisif. Quoi. T'es à domicile, coup, ouais, les Clippers n'ont pas le droit de perdre cet avantage.
Tu peux pas te le permettre de le perdre une deuxième fois. Ouais. C'est sûr. C'est pronostic de ce soir et pronostic de la série, mon Rémi.
Sur celle-ci, là ?
Ouais.
Bah, moi, je suis pour les Clippers, donc je pense que je suis pas très, très objectif, logique. Mais je pense que les Clippers vont chercher ce match 5, qui est pour moi le match le plus important de la... Enfin, peut-être le match le plus important de la série, là, parce que là, c'est vraiment un tournant trop important. Si les Clippers le gagnent, je pense que ça peut se terminer 4-2, parce que les Clippers ont après les armes pour aller chercher un à Dallas, parce que Luka, sous pression, il a un peu du mal, et ça peut faire mal. Ouais. Si Dallas gagne ce Game 5, c'est Dallas qui gagne 4-2. Voilà, moi, c'est le sentiment que j'ai. Donc, je vais quand même dire 4-2 Clippers.
Et ben, moi, je vais aller à l'inverse. Je pense que les Mavs vont remporter ce match 5.
Ouais.
Donc, je vois un 4-2 Mavs.
Donc, tu es d'accord avec moi que ce Game 5, c'est celui qui gagne la série, en gros ?
C'est ça. On est d'accord là-dessus.
Pour moi, ça va pas sur un Game 7, ouais.
Bah, ça en a tout l'air, en tout cas, parce que les deux équipes sont tellement proches l'une de l'autre en termes de niveau.
Ouais.
Que celui qui reprend l'avantage du terrain, là, à deux matchs de la fin, je pense qu'il plie la série. Ouais. Je suis d'accord, ouais, avec ça.
C'est probable.
Et puis j'attends un gros match de Luka dans le pourcentage au tir. Chose qui lui manque un petit peu sur ce
pourcentage au tir, c'est là où il pêche. Série.
Et à 40% à peine au tir global. J'attends un match 5 de très grande qualité, même s'il tourne à 29 points, 10 rebonds, 8 passes. J'attends un peu plus de pourcentage et de réussite au tir. Voilà.
Ouais, il est qu'à 26% à 3 points. Hein. Et ça, c'est, ça leur fait très très mal.
C'est surtout quand t'en prends 13.
Ouais, oui, surtout, oui.
Yes. Bon, bah voilà. Du coup, tu verrais un Clippers OKC.
Moi, je veux voir les Clippers passer, ouais, bien sûr.
Qui d'ailleurs sera une super série. Hein.
Et moi... Je les en offre, hein, que ce soit Clippers OKC ou OKC Dallas. Les deux séries sont très belles. Hein.
C'est vrai que les playoffs cette année sont de très grande qualité avec des niveaux assez homogènes un peu partout. Donc c'est assez chouette de voir ça.
Ce que j'aime beaucoup, c'est tous les jeunes qui débarquent et qui explosent tout.
Ouais.
Que ce soit Oklahoma, les mecs, il y a 2 ans, personne ne les connaissait et là ils explosent tout, ils sont premiers de conf et attention les surprises qu'ils peuvent faire en playoffs. Ils n'ont pas d'expérience, mais attention. Que ce soit Anthony Edwards, on connaissait le talent du mec, mais d'aller sweeper. Une équipe composée de Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant, compliqué à aller chercher.
Ouais.
Et puis on parlera de la conférence S plus tard, mais ouais, là, les playoffs sont... Moi, j'aime trop, hein, vraiment.
Ouais, c'est trop chouette à suivre. C'est vraiment sympa. Ouais, c'est clair. On clôture là-dessus, mon Rémi ?
Ouais.
Allez, c'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. On est aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter @WakeUpNBA. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Vive le basket, vive la NBA. Ciao.
Ciao tout le monde.